Bienvenue sur OxyWeb, la radio des initiatives, notre nouvelle page d'histoire sur l'aviation.
Chers auditeurs de l'émission Historia, bonjour. Bien content de vous retrouver. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous nous sommes quittés à un moment stratégique pour l'aviation. L'aviation militaire est toute débutante en ses premiers mois de guerre et elle va rapidement devenir indispensable aussi bien pour les Alliés que pour les Allemands. Ben justement, en ce début de guerre, quelle est la situation de nos Alliés par rapport à l'aviation ? En particulier, où en est l'industrie aéronautique chez notre plus proche allié, c'est-à-dire l'Angleterre? Eh bien, la situation de l'aviation en Angleterre n'est pas brillante. La Grande-Bretagne a pris du retard dans ce domaine de l'aviation militaire. Elle se repose grandement sur l'industrie aéronautique française et en particulier pour tout ce qui concerne la motorisation. La fameuse Royal Air Force, la RAF, en ses débuts de la guerre, ne compte que 30 appareils. Et il en est de même pour l'armée américaine, totalement dépassée, car même lorsqu'elle entra en guerre en 1917, elle était totalement dépendante des industries aéronautiques françaises et britanniques. Dès le début de la guerre, on voit que la cavalerie, face à une puissance de feu trop élevée, ne peut plus réaliser des missions de reconnaissance efficaces. Force est donc de reconnaître que seuls les avions pourront remplir seuls cette fonction. Les interrogations du début ont fait place à une certitude. Seuls les avions peuvent localiser l'ennemi. Ces reconnaissances aériennes vont jouer un rôle capital lors de ce que l'on a appelé la guerre de mouvement. Cette guerre de mouvement a duré d'août à novembre 1914. Grâce à ces reconnaissances qui vont être très efficaces, les Alliés vont stopper l'invasion allemande de la France. Le 5 octobre 1914, tout près de Reims, se déroule le premier combat aérien de l'histoire mondiale de l'aviation militaire. Et c'est une victoire française. Le pilote, Joseph Franz, de l'escadrille V-24, sur un avion de marque voisin, va abattre l'Oberleutnant Fritz von Sagen, qui vole lui sur un avion allemand, un Aviatik. Les progrès faits au niveau de l'armement, et en particulier le développement des mitrailleuses synchronisées, accélèrent le nombre des batailles. Comparée à l'horreur des tranchées, la guerre aérienne est vue plutôt comme une guerre propre, si tant est qu'une guerre puisse être propre. L'aviation possède un côté noble, chevaleresque. Guynemer s'inspirait de l'ancienne chevalerie et en particulier lors de ces combats aériens. Et c'est ainsi qu'Ernst Undet, dont je parlerai plus tard, qui deviendra l'as numéro 2 allemand, racontera comment Guynemer l'a épargné alors qu'en cours d'un combat aérien, sa mitrailleuse s'était enrayée. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une grande compétition entre ces pilotes, ceux que l'on a appelés les as. Et à la fin de la guerre, on a établi un classement de ces valeureux pilotes. Ces as du côté français sont nombreux, et j'en citerai certains. En premier, le capitaine René Fonck, surnommé la cigogne blanche. C'est l'as des as français, avec 75 victoires confirmées, ainsi que 32 autres non homologuées. Il est placé au deuxième rang mondial, tout pilote confondu. Selon les dires de Maurice Boyau, qui lui aussi a fait partie des As avec 35 victoires, Fonck dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un homme, c'est un oiseau de proie. Là-haut, il sent l'ennemi. Il le distingue nettement à 8 ou 10 kilomètres, sans être vu. Il choisit sa proie. Quelques balles suffisent et il n'y a jamais eu de riposte. Et c'est vrai, il n'en sera jamais touché par un tir adverse. Georges Guynemer, bien connu, capitaine dans l'aviation française, né le 24 décembre 1894 à Paris, est issu d'une famille aristocratique. Il descend des rois de France, Louis XIII et Louis XIV. C'est un descendant de Bathilde d'Orléans, mère du duc d'Enghien. C'est le duc d'Enghien qui fut fusillé dans les fossés du château de Vincennes le 21 mars 1804 sur ordre de Bonaparte. Lorsque la guerre éclate, Georges Guynemer est déclaré à Bayonne comme inapte au service. Les médecins militaires le trouvent trop chétif. Il s'engage, mais au titre des services auxiliaires, comme élève mécanicien à Pau. À force de volonté, il deviendra élève pilote et en 1915, enfin, il sera pilote. Il remportera 53 victoires homologuées, plus 35 victoires probables en combat aérien. Il est affecté durant toute sa carrière à l'unité de chasse la plus victorieuse des ailes françaises, l'escadrille dite « Escadrille des cigognes ». Ses avions étaient peints en jaune et baptisés « Vieux Charles ». Hélas, le 11 septembre 1917, il ne rentrera pas d'une mission de combat au-dessus de Poelcapelle, en Flandre. Ni l'épave de son avion, ni son corps, ni ses effets personnels ne furent retrouvés. Les Allemands annonceront qu'il avait été abattu par le lieutenant Kurt Weissmann, qui sera tué lui-même au combat 17 jours plus tard. Un autre as très célèbre, le capitaine Charles Nungesser, né à Paris le 15 mars 1892. Lui, c'est un personnage haut en couleur. 45 victoires à son compte, plus 15 non homologuées. Mais sa vie est un véritable roman. Il part à 15 ans en Amérique du Sud, où il exerce différents métiers. Cow-boy, boxeur, pilote de course automobile, et c'est là qu'il découvre l'aviation qui en est à ses débuts. C'est là aussi qu'il va commencer à piloter. Revenu en France, juste avant la guerre, il s'engage au 2e régiment de hussards, où, après 10 jours de combat, il obtient la médaille militaire. Et je ne peux résister à vous raconter le haut fait d'armes qui l'a amené à recevoir cette décoration. Après avoir passé seul les lignes ennemies, il capture une voiture de marque Morse, tue les 4 officiers prussiens, ramène la voiture au quartier général de sa division avec des plans trouvés sur les officiers prussiens. Son général, non sans humour, faisait allusion à la voiture de marque Morse qu'il a subtilisée aux Prussiens. Et on l'a surnommé à ce moment-là le hussard de la mort. Le jeu de mots entre Morse et mort. Il est aussi autorisé, selon son souhait, à passer dans l'aviation. Fidèle à ses habitudes, il continue dans l'aviation à se comporter de façon atypique. Il se conduit avec bravoure et à plusieurs reprises termine des patrouilles de chasse par des acrobaties au-dessus de son terrain, ce qui lui a valu à plusieurs fois 8 jours d'arrêt, mais qui seront levés lorsqu'il abat un biplace Albatros le 28 novembre 1915. Tout le reste de sa guerre est fait de blessures, de victoires et de bravoure. Le 15 août 1918, il abat plusieurs Darkenset, remporte sa 43e victoire homologuée. Au nombre de victoires homologuées, il n'est dépassé que par René Funk et Georges Guynemer. Mais ce n'est pas fini. La guerre va se terminer et il monte une école de pilotage à Orly. C'est dans cette école que l'aviatrice Hélène Boucher fera ses premiers vols. Mais là, il fait faillite et part faire des exhibitions de haute voltige aux États-Unis. En 1927, avec son ami François Colly, qu'il a rencontré en 1916, il forme le projet de rallier Paris à New York. Il décolle de l'aéroport du Bourget le 8 mai 1927 à destination de New York, à bord de l'Oiseau Blanc, un biplan Levasseur frappé de l'insigne de guerre de Ningesser. On aperçoit l'avion au large des côtes irlandaises, mais il n'atteindra jamais New York. Restent des hypothèses quant à la disparition de Ningesser et Colly, dont l'avion ne sera jamais retrouvé. L'avion se serait peut-être abîmé en mer à cause d'une violente tempête ou alors par manque de carburant. Aujourd'hui, encore des recherches sont organisées dans l'état du Maine, aux États-Unis, et de là jusqu'à Terre-Neuve. Autre hypothèse, depuis 2009, des recherches renouvelées tous les ans sont faites à Saint-Pierre-et-Miquelon, où l'Oiseau Blanc aurait pu avoir été abattu par des trafiquants d'alcool. Il faut se souvenir que Saint-Pierre était alors un haut lieu de la contrebande vers les États-Unis, soumis au régime de la Prohibition. Question sans réponse, Ningesser et Colly ont-ils été victimes d'Al Capone ? 2 semaines après la disparition de Ningesser et Colly, le 21 mars 1927, Charles Lindbergh établissait sur son avion le Spirit of Saint-Louis, la première traversée atlantique de New York à Paris, en 33 heures 30 minutes. Après cette parenthèse, revenons à la Première Guerre mondiale. Il y a d'autres as français, moins connus, mais tout aussi valeureux. Et je citerai le capitaine Georges Madon, 41 victoires, plus 64 non homologués. Le sous-lieutenant Maurice Bayon, c'est lui qui a écrit les phrases admiratives que je vous ai rapportées à l'encontre de Fonck. Pour lui, 35 victoires et 2 non homologués. Il sera tué le 16 septembre 1918. Et pour terminer, je citerai le lieutenant Michel Coiffard, mort le 29 octobre 1918, lui des suites de ses blessures, et à son compte, 35 victoires et 5 non homologués. Mais il n'y a pas que du côté français qu'il y a eu des as. J'ai parlé des grands as français, mais aussi bien dans les rangs des alliés que dans ceux des Allemands, il y a eu aussi des héros célèbres. Célèbres aussi pour leur courage, leur témérité et leur adresse. Mais quelques alliés valeureux pour le Canada. 2 pilotes viennent en 3e place et 4e place dans le classement mondial. Billy Bishop avec 72 victoires et Raymond Colichaud avec 62 victoires. On trouve aussi un Canadien en 11e place, William Barker, 50 victoires. Un Australien, Roderick Dallas, décédé le 1er juin 1918, pour lui, 31 à 50 victoires selon les sources. Et enfin pour les Anglais, Edward Mannock, qui décède le 26 juillet 1918, 6e place pourtant, hein, considéré comme le meilleur pilote britannique avec 75 ou 61 victoires. Enfin, James McCudden, décédé accidentellement le 9 juillet 1918, l'as le plus décoré de la Première Guerre, il est à la 7e place avec 57 victoires. Ces pilotes, ces as, comme on les a nommés, ont donné les lettres de noblesse à une aviation devenue maintenant incontournable. Je n'ai parlé jusqu'à présent que des pilotes français et alliés, mais vous vous doutez bien qu'en face, chez les Allemands, il y a eu de très grands pilotes. Comme chez les Français et alliés, il y a aussi un classement des as allemands et je vous le présenterai au cours de la prochaine émission. À très bientôt sur Estoria.
Continuez à nous écouter sur OxyWeb et suivez-nous sur les réseaux sociaux.